Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, c'est parti pour Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h. Très très bon réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. La Coupe du Monde, c'est parti ce soir pour la France.
RMC, Coupe du Monde 2026.
France-Sénégal, 21h, vous ne manquerez rien sur RMC, avant-match avec Jérôme Rotten dès 18h, match en intégralité en direct de New York, after-foot jusqu'à 2h du matin. À 7h40, ce matin, nous serons avec l'ancien international français, consultant RMC, Éric Dimeco. La France doit réussir son entrée dans la compétition, la voix du foot sur RMC. Jean-Louis Tour sera aussi avec nous en direct, vous allez vibrer, venez me raconter, venez nous dire ce que vous en attendez, comment vous vous sentez à l'aube de cette très grande journée, 32-16 bien sûr, et puis le WhatsApp 0612 424 424. On va aussi parler politique internationale, l'accord entre l'Iran et les États-Unis annoncé dimanche soir. Mon invité dans le face-à-face, c'est l'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie, Thierry Breton. Cet accord et puis surtout les desiderata de Donald Trump. Souvenez-vous, Thierry Breton, il n'est toujours pas autorisé à franchir le territoire américain. Il est privé de visa. Alors qui sont les gagnants, qui sont les perdants de cet accord et surtout quelles conséquences pour l'économie française? Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Puis on continue à jouer et à miser beaucoup, beaucoup d'argent. Venez gagner donc la prime de match. RMC vous fait gagner 30 000 euros plus 500 euros à chaque but marqué pour chaque match de la Coupe du Monde. On est déjà à 53 000 euros. 53 000 euros pour vous. Soyez bien à l'écoute. Il y aura une alerte d'ici 9h. Dans un instant, le journal de 7h. Mais pour l'instant, la météo, et c'est la grande chaleur, mais qui se décale vers l'est.
Exactement. Il va faire un peu moins chaud temporairement dans l'ouest pour aujourd'hui. En revanche, en Auvergne-Rhône-Alpes, il va faire très chaud aujourd'hui. Alors, on attend 34 degrés à Clermont-Ferrand, 33 à Lyon, à Grenoble. Il fera même 35 à Perpignan. On aura 30 à Marseille, 29 à Paris, Bordeaux, 24 à Lille ou La Rochelle. Avec pas mal de grisailles ce matin sur le golfe de Gascogne, les côtes bretonnes et de la Manche. En journée, on aura globalement un soleil assez voilé sur le pays, mais ce sera quand même une impression évidemment de beau temps. Et puis la chaleur qui va se généraliser demain, on va vraiment commencer à rentrer dans la vague de chaleur. Les températures qui vont grimper encore jeudi, le pic est attendu pour dimanche avec des températures en moyenne de 35 degrés sur le pays, mais on pourrait localement atteindre les 40 degrés.
Il est 7h, merci d'avoir choisi RMC pour vous réveiller.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La réouverture du détroit d'Ormuz, promesse de Donald Trump par Éveil Arabien pour le G7, alors que les prix du gazole fléchissent enfin à la pompe. Les parents qui hésitent à envoyer leurs enfants en colonie de vacances cet été dans le sillage de l'affaire Liana et du périscolaire parisien, les réservations sont en baisse de 5%, c'est une information RMC. Et puis on les a quittés au Qatar, les larmes aux yeux en décembre 2022. On les retrouve 4 ans plus tard aux États-Unis. Les Bleus lancent leur Coupe du Monde ce soir face au Sénégal, 21h sur RMC. On retrouvera Jean-Louis Tour en direct de New York dans ce journal.
Volodymyr Zelensky attendu à Évian au sommet du G7.
Le président ukrainien va tenter d'imposer la question de l'Ukraine ce matin au programme des discussions largement consacrées jusque-là au Moyen-Orient. La signature d'un accord de paix avec l'Iran est prévue vendredi à Genève. Une paix au contour encore bien flou, au cœur d'un échange hier entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Et le président américain de se montrer, comme à son habitude, Rachel Sadodine, très optimiste.
Un accord dont le président américain s'est immédiatement félicité à grand renfort de superlatifs.
L'accord que nous avons conclu avec l'Iran va apporter beaucoup de bonheur au monde entier.
Avec deux axes majeurs selon les chefs d'État, la garantie que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire et la réouverture du détroit d'Ormuz qui, d'après Donald Trump, est en cours.
Le détroit est déjà partiellement ouvert. Comme vous le savez, nous menons des opérations de déminage. On a déjà retrouvé certaines mines. Les bateaux sont en train de passer. Vendredi, le détroit sera totalement ouvert.
Et Donald Trump peut d'ajouter « Je ne pense pas que nous aurons besoin d'aide pour garantir cette réouverture ». Manière peu subtile de rejeter la proposition française, d'ailleurs réitérée hier soir par Emmanuel Macron, de déployer le porte-avions Charles de Gaulle dans la zone. Mais alors, péage ou pas péage dans le détroit d'Ormuz? Le locataire de la Maison-Blanche évoque un passage entièrement gratuit, mais les autorités iraniennes, elles, laissent planer le doute.
Rachel Sadodine, envoyée spéciale à Evian pour RMC. La lutte n'est pas terminée, dit Benjamin Netanyahou, qui appelle à la vigilance en réponse à cet accord pas forcément bien accueilli du côté d'Israël. À l'inverse, des marchés baissent les cours du pétrole et à la pompe aussi, un litre de gazole sous les 2 €. C'est une première depuis le mois de mars et un soulagement pour ces automobilistes rencontrés par notre correspondant Martin Lange à Rennes.
Quand Marion a vu les prix dans cette station, elle s'est immédiatement arrêtée.
Je suis qu'à demi-plat en plus, mais on est un peu incertain en ce moment, donc vaut mieux en profiter et puis y aller dès qu'on voit que les prix baissent un petit peu. Quoi.
Malgré l'accord de paix qui se profile entre l'Iran et les États-Unis, la majorité des automobilistes estiment que les prix baissent trop lentement. Benoît est artisan.
C'est que des accords, hein, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien, comme on dit. Hein. Aujourd'hui, ça va pas assez vite.
Marvin, lui, reste optimiste, surtout dans l'optique de l'été.
C'est mieux que rien, une petite baisse de 10 centimes, on prend. Avant les vacances, ça fait toujours plaisir.
Notamment pour ceux qui ont prévu de longs trajet, c'est le cas d'Amazir. Cet agent de sécurité va passer un mois en Algérie.
Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Je vais jusqu'à 7. Après, je prends le bateau pour 100 mois au porte-monnaie.
Gérant d'une station-service à Saint-Aubin-du-Cormier, Philippe confirme cette tendance à la baisse.
Depuis début juin, il a baissé à peu près en achat de 11 centimes par litre.
Surtout, ces deux pompes ne sont plus prises d'assaut.
C'est un soulagement parce qu'on a du carburant maintenant tout le temps. On n'est plus en rupture. C'est beaucoup plus simple pour nous et beaucoup plus serein.
Et il espère que la signature d'un accord de paix entérinera une baisse durable des prix à la pompe.
Et le sujet des carburants qui sera sur la table d'une réunion avec les distributeurs reçus ce matin à Bercy. Ils étaient encore plusieurs milliers, hier comme la semaine dernière, devant les tribunaux du pays pour réclamer une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Manifestation dans la lignée de l'affaire Liana, dans le sillage aussi du scandale du périscolaire parisien qui a réveillé les consciences au point que certains parents réfléchissent à revoir leur plan pour les vacances d'été, hésitant à envoyer leurs enfants en colonie. Louis Salé nous rejoint. Vous nous révélez ce matin ce chiffre RMC. Louise, 5%, c'est la baisse du nombre d'inscrits par rapport à l'an dernier.
Oui, alors selon les organisateurs de colonies de vacances qui nous ont confié ces chiffres, les inscriptions baissent surtout pour des raisons économiques, à cause du pouvoir d'achat des familles en berne et de la réduction des aides de l'État qui finançaient certains séjours. Mais les mairies qui organisent aussi des colonies reçoivent de nombreux appels de parents inquiets. Certains renoncent à envoyer leurs enfants quand d'autres s'interrogent sur la façon dont les jeunes sont encadrés. Lucas Laubert a interrogé des pères de famille à Paris pour RMC.
Si je peux éviter, j'éviterai. C'est compliqué de savoir à qui on a affaire. Ça nous fait peur de plus en plus, vous voyez.
Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément habilités ou en tout cas qui n'ont pas les façons de faire avec des petits-enfants.
Forcément, une colonie, dans ce contexte, elle doit justifier que les accidents ne vont pas arriver. C'est important de se dire qu'il y a toujours plusieurs adultes autour des enfants, plutôt des femmes, on espère.
Les organisateurs rassurent les parents en leur expliquant que le casier judiciaire de chaque animateur est examiné. Une plateforme de l'État permet de vérifier si cette personne n'a pas fait l'objet de signalements dans d'autres structures. Les colonies de vacances, enfin, sont régulièrement inspectées. Le nombre minimum d'encadrants qui disposent d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur est scruté de près. Un brevet qui contient d'ailleurs depuis peu un module obligatoire sur les violences sexuelles.
RMC 7h06 et c'est un jour particulier qui commence.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et vous vous réveillez peut-être avec le sourire aux lèvres. Ce matin, une douce excitation qui commence à monter jusqu'à 21h ce soir. Et le coup d'envoi de France-Sénégal, début de la Coupe du Monde. Pour nos bleus, l'impatience grandit avec l'espoir d'une victoire tricolore.
Bah ouais, j'ai hâte là. J'ai regardé un peu les autres matchs et tout. Bah forcément c'est sympa, mais on attend que la France elle joue quoi, c'est pas la même saveur.
On va mettre des maillots de foot, je sens qu'on va gagner et tout avec nos beaux joueurs.
Bah toute la semaine, là depuis le début de la Coupe du Monde, ouais j'attends ça moi, donc très impatient ouais.
J'espère qu'il va y avoir de l'ambiance et qu'on va marquer plein de buts. Hein. Ramener la coupe à les maisons, allez les bleus, allez.
Et avant de ramener la coupe à la maison, il faut d'abord gagner ce premier match ce soir à New York. Rendez-vous 21h sur RMC avec Jean-Louis Tour au commentaire. On vous retrouve Jean-Louis. Ce matin en direct de New York, la recette elle est simple. Pour gagner, il faut marquer et les Bleus ne manquent pas d'armes offensives, Jean-Louis.
Oui, et ce sera la grande curiosité. La fameuse formule offensive de Deschamps va-t-elle fonctionner dans un gros match? Car même si Deschamps joue ainsi depuis un peu plus d'un an, il n'y a pas eu un adversaire comme le Sénégal, champion d'Afrique, sur une grande compétition qui s'est dressée face au fameux quatuor, les quatre attaquants qui ont de sacrées références, Kylian Mbappé, champion du monde, les vainqueurs de Ligue des champions parisiens, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, et le meilleur joueur de Bundesliga au Bayern Munich, Michael Olise. Cette compo qui a affiché quelques difficultés lors de la défaite contre la Côte d'Ivoire, puis lors de la victoire face à l'Irlande du Nord en préparation. Depuis, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni l'a expliqué, les Bleus ont amélioré, corrigé ce qui n'avait pas fonctionné sur ces rencontres. La question sera donc celle du repli défensif des attaquants et ce fameux équilibre qui a coûté un but sur les 5 derniers matchs des Bleus, des erreurs qui pourraient coûter cher ce soir face au Sénégal.
Jean-Louis Tour, en direct de New York ce matin, on vous retrouvera ce soir dès 20h pour l'intégrale Coupe du Monde sur RMC, suivi du match France-Sénégal, je vous rappelle l'horaire, 21h. L'after prendra le relais jusqu'à 5h du matin avec un beau programme. D'abord, l'autre match de ce groupe I, le groupe de la France, entre l'Irak et la Norvège, avant l'entrée en lice des champions du monde en titre, l'Argentine opposée à l'Algérie, la nuit prochaine, 3h du matin. Et puis, notez que cette nuit, l'Iran a fait match nul face à la Nouvelle-Zélande, 2-2, pas de vainqueur non plus entre le Cap-Vert et l'Espagne, favori de la compétition, 0-0, match nul aussi pour la Belgique face à l'Égypte. Notez enfin que Hervé Renard succède à Sabri Lamouchi. Il a été limogé de son poste de sélectionneur de la Tunisie, battu par la Suède dimanche 5-1.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. En France, on est tous égaux devant la loi. Oui, mais si c'est pas la même loi, la Corse doit-elle bénéficier d'un statut d'autonomie avec des lois et des règles spécifiques? Les députés en débattent à partir d'aujourd'hui. Bonjour Gilles Simonet. Gilles Simeoni, je ne sais jamais s'il faut que je le prononce en corse. Vous vous dites quoi?
Au moment de l'autonomie, vous pouvez...
Voilà, exactement, c'est aujourd'hui, alors peut-être qu'on changera demain. Gilles Simeoni encore, donc merci d'être dans ce studio. Vous êtes le maire de Bastia, vous êtes l'homme fort de Corse. Vous avez présidé pendant 10 ans le conseil exécutif de Corse. Votre parti pris ce matin, c'est évidemment que la spécificité de la Corse justifie à vos yeux un statut d'autonomie. Et vous nous expliquez pourquoi dans un instant, en répondant à mes questions. Il est 7h04.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bonjour Gilles Simeoni. Merci d'être avec nous dans ce studio en métropole, j'allais dire. Vous êtes le maire de Bastia, vous êtes aussi vraiment celui qu'on appelle l'homme fort de Corse. Vous avez dirigé pendant plus de 10 ans le conseil exécutif de Corse. Ce projet qui sera donc débattu aujourd'hui par les députés. Projet pour une Corse autonome au sein de la République. Est-ce que c'est pas surtout pour une Corse de plus en plus autonome et de moins en moins au sein de la République?
Non, je pense que l'autonomie, c'est une forme d'appartenance à la République. Pour l'instant, nous ne sommes pas autonomes et nous aspirons à le devenir.
Avouez que vous jouez un petit peu sur les mots quand même. Oh, l'autonomie, c'est pour être au sein de la République, non?
L'autonomie, c'est une capacité à produire des normes. C'est un statut ou un régime qui existe dans beaucoup de régions européennes et notamment dans toutes les îles de la Méditerranée et qui fonctionne plutôt bien. Les Baléares, les Açores, la Sardaigne sont autonomes depuis des décennies. Elles produisent de la norme adaptée à des problématiques qui notamment sont aggravées ou suscitées par l'insularité en matière de transport, en matière d'aménagement du territoire, en matière de langue et de culture. Ça se fait dans un cadre apaisé avec l'État et ça a également permis un développement économique et social soutenu.
Ça se fait effectivement de manière apaisée avec l'État, clairement depuis désormais quelques années, on le sent bien. Aller vers l'autonomie semble quelque chose qui vous est promis désormais. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous dites, on voudrait pouvoir produire nos propres normes. Mais de quoi voulez-vous vous débarrasser?
Alors, il ne s'agit pas de se débarrasser, il s'agit d'essayer d'adapter la règle à des besoins spécifiques.
J'ai bien compris, en théorie.
Je vous prends un exemple.
Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que vous dites, voilà, moi je veux, nous voulons désormais pouvoir avoir nos propres lois, nos propres règles, avec plus d'autonomie. Mais concrètement, vous en ferez quoi?
Alors, je vous prends un exemple concret qui empoisonne, par exemple, la vie des maires depuis des années. Aujourd'hui, nous avons des lois nationales qui sont prises par rapport à des problématiques qui se posent à l'échelle du pays. Par exemple, en matière d'urbanisme, la loi littorale et la loi montagne. La jurisprudence et la règle actuelle font que lorsque vous avez un cumul de lois, c'est la loi la plus sévère qui s'applique. En Corse, nous avons plusieurs dizaines de communes qui sont à la fois des communes de l'intérieur, mais qui ont une façade littorale. On applique donc la loi littorale, qui est totalement inadaptée pour les communes de l'intérieur, ce qui est un frein au développement, lorsque notamment vous voulez faire un permis de construire pour permettre à des jeunes de s'installer. Donc ça fait des années qu'on demande au législateur de modifier la loi. Il a autre chose à faire. Si nous avions la capacité d'aménager ce texte, nous le ferions, et nous le ferions y compris sous le contrôle du juge, ce qui permet de garantir une cohérence d'ensemble à l'échelle nationale.
Mais vous comprenez bien que la formule de la Constitution française, c'est tous égaux devant la loi. Mais ça n'est plus la même chose
si la loi est différente?
Alors, l'égalité, c'est pas un concept figé. L'égalité, elle commande notamment de traiter de façon différente des situations différentes. Et d'ores et déjà aujourd'hui, et d'ailleurs depuis des décennies, il y a des situations qui sont très différentes, de façon sectorielle, par exemple, si on prend le droit mosellan, ou par exemple en Polynésie, où depuis plus de 20 ans, il y a un statut d'autonomie qui permet, par exemple, à l'Assemblée territoriale polynésienne, eh bien, de prendre des règles spécifiques qui ont valeur législative et qui peuvent même organiser un accueil privilégié aux résidents du territoire, par exemple en matière foncière ou en matière à l'emploi, et personne n'a trouvé à y redire.
Certains constitutionnalistes, Benjamin Morel qu'on connaît bien ici, dénoncent cette réforme. Il estime que ça va consacrer le communautarisme qui rompt l'égalité de tous face à la loi et l'idée qu'on ne soit qu'un seul peuple. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je réponds que tout ce qui s'est passé en Corse depuis des décennies montre bien, premièrement, que notre démarche est aux antipodes du communautarisme. C'est une démarche ouverte, rayonnante, en aucun cas un basculement vers le droit du sang ou vers une conception
Ça, c'est important quand vous dites en aucun moment il y aura cette histoire du droit du sang, parce que la question, c'est aussi le rapport à la terre, le rapport à la communauté. Est-ce que de ce point de vue-là, vous estimez qu'il faut faire évoluer aussi les choses ?
Oui, nous estimons qu'il faut faire évoluer les choses. Il y a un enjeu à la fois historique et symbolique. Nous considérons, et nous ne sommes pas les seuls à considérer, les Corses à l'unanimité, mais également les constitutionnalistes, les grands philosophes de l'Europe du XVIIIe siècle, des grands hommes politiques de Gaulle jusqu'à Mitterrand, ont tous considéré que le peuple corse existe. La difficulté, c'est comment on le reconnaît.
Comment le définit, à vos yeux, le peuple corse ? Il faut combien d'ascendants ?
Non, mais justement, nous n'avons pas une conception qui repose uniquement sur l'ascendance ou ce lieu de naissance. Pour nous, c'est essentiellement une communauté dynamique. Nous avons appelé la communauté de destin, c'est-à-dire que au-delà de la naissance, de la langue, du rapport à la terre et à l'histoire, c'est une volonté de se sentir partie prenante du présent et de l'avenir.
Mais ça veut dire que si je viens chez vous demain et que je dis que je me sens corse, est-ce que vous me l'octroierez ?
C'est pas moi qui vais décider.
Ou est-ce que vous me demanderez mes quartiers de naissance ?
Alors non, pas du tout, non. Vous savez, ce sont des choses difficiles. Par exemple, comment et pourquoi est-on...
Mais c'est une question qui traverse la société française globalement, mais c'est vrai qu'en faisant une spécificité...
De façon globale, mais c'est pour ça que je dis que la question qui est posée aujourd'hui au Parlement et les enjeux dont il aura à débattre concernent la Corse, mais renvoie aussi la société française, d'abord à ses inquiétudes, mais aussi sans doute à sa volonté d'intégrer les enjeux du 21e siècle. Je veux dire, il y a cette aspiration en Corse. La question fondamentale, elle est partagée par une très large majorité de Corses. Le texte qui va être débattu a été voté quasiment à l'unanimité, notamment à l'unanimité sur la question de l'existence d'un peuple, d'une langue et d'un rapport singulier à la terre. Est-ce que la République est capable de prendre en compte cette aspiration et comment on fait pour le faire ? Et je crois que si elle le fait, non seulement elle ne s'affaiblira pas, mais elle se renforcera.
Avec une question aussi, c'est le mot menace que vous avez utilisé en disant ce sera lourd de conséquences perturbantes. Comment est-ce que vous...
Non,
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je pense que personne ne peut considérer, ni dans ma trajectoire politique depuis des décennies, ni dans ce que je dis, qu'il y a un quelconque recours à la menace ou au chantage à la violence. J'ai dressé un constat objectif. D'abord, c'est que ce rendez-vous est attendu.
Ce rendez-vous, mais vous êtes plutôt serein sur le résultat, si je comprends bien.
Je pense qu'on a effectivement une obligation de résultat, parce que d'abord, il y a la prise en compte du fait démocratique qui est essentielle. Et puis, il faut aussi...
Les aspirations
du peuple corse. Et il faut comprendre aussi que si on ne répond pas, au moins en ouvrant la possibilité du débat, à mon avis, en votant cette révision constitutionnelle, en discutant derrière de ce qui pourra être fait, mais également des contrôles et des limites qui sont d'ores et déjà prévus par le texte, eh bien, effectivement, il va y avoir une forme de désillusion. Et puis surtout, je vous le redis, nous, depuis 10 ans, nous avons été en situation de responsabilité. Nous avons voté une délibération qui organisait ou qui proposait un statut d'autonomie beaucoup plus ambitieux que celui qui est envisagé aujourd'hui. Nous avons accepté, eh bien, de revoir à la baisse nos revendications pour construire un compromis très large. Ce compromis, il est soumis aujourd'hui au Parlement. Il faut aussi que la démocratie fonctionne pour que d'autres, notamment les jeunes, eh bien, ne soient pas désespérés face à une situation économique, sociale, sociétale en France qui est très inquiétante.
Il fallait entendre le lourd de conséquences perturbantes. Merci beaucoup d'être venu défendre ce matin donc votre volonté d'autonomie. Gilles Simeoni, vous êtes donc le maire de Bastia et l'ancien directeur du conseil exécutif de Corse. Il est 7h20 sur RMC. C'est l'heure de remonter le temps. Hier, tiens, ils nous racontaient l'histoire de la Corse, Arthur Chevalier. Mais ce matin, vous nous racontez le château de Versailles.
Et oui, Emmanuel Macron invite Donald Trump dans le château des rois de France. C'est ce soir. Et le premier président américain à avoir eu droit à un dîner à Versailles à Pauline, c'était Kennedy.
Vous nous le racontez dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demanche qui arrive. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, Donald Trump est arrivé en France pour le G7 à Évian et demain, il sera invité à dîner par Emmanuel Macron, un dîner officiel au château de Versailles.
Oui, et Emmanuel Macron a précisé hier que ce dîner sera, je cite, « notre moment de célébration de ces 250 ans d'indépendance ». C'est évidemment une référence aux 250 ans de l'indépendance américaine qu'on célèbre cette année. Mais c'est aussi une façon de rappeler aux Américains que les armées françaises avaient joué un grand rôle à leur côté pendant leur guerre d'indépendance. Donc en fait, qu'ils nous doivent un petit peu quelque chose. Et ce dîner promet d'être spectaculaire, Apolline, puisqu'au programme, ça sera visite du château, dîner et feu d'artifice dans les jardins illuminés.
Cette soirée, elle vous fait penser à celle d'un autre président américain.
Et oui, et pas n'importe quel président américain, c'était celle du président John Fitzgerald Kennedy en juin 1961. Kennedy venait d'être élu. Et c'était, mais alors, la coqueluche du monde entier à l'époque. Hein, Kennedy était jeune, beau, moderne, cool. C'était Barack Obama avant l'heure. En plus, il parlait français. Sa femme aussi parlait français. C'était une icône du glamour et du chic. Je parle bien sûr de l'éternel Jackie Kennedy. Pour toutes ces raisons, le général de Gaulle, qui était notre président, invite donc Kennedy pour quelques jours. Et le clou de sa visite, eh bien, c'était un dîner d'exception au château de Versailles.
Un château où rien n'était prévu pour ce genre d'événement.
Et oui, puisque à l'époque, on ne donnait quasiment aucune réception à Versailles et surtout pas de dîner d'État. Donc le château n'était pas en état, tout simplement. Il a fallu tout refaire, ou presque, pour l'occasion. On installe l'éclairage électrique dans la galerie des glaces. Ça n'existait pas. Le dîner aura lieu dans cette galerie des glaces. On transforme la chambre de Louis XIV en entrepôt où on met toute la vaisselle pour le dîner. Et bien sûr, Apolline, qui dit dîner, dit cuisine, sauf que c'est un vieux château, donc il n'y a pas de cuisine. Donc on fait carrément aménager une cuisine ouverte dans une des cours. Et forcément, il faut aussi des toilettes modernes, il n'y en avait pas non plus. Donc on met des toilettes d'appoint, des sortes de toilettes de chantier, dans les salons dorés.
Extraordinaire. Combien de personnes ont assisté à ce dîner?
Beaucoup. 174 pour être exact. Et forcément, la table du dîner était, mais alors, gigantesque. Hein, 67 mètres de long et tout était calculé au millimètre. Les places étaient réparties en fonction des embrasures des fenêtres. Pourquoi? Eh bien, pour que tout le monde puisse avoir une vue sur les jardins. De Gaulle et Kennedy, eux, étaient au centre de la table, côte à côte, en majesté, sans personne face à eux. Les verres étaient en cristal de baccarat, la vaisselle, c'était de la porcelaine de Sèvres. Et la nappe était brodée avec du fil d'or. C'était plus qu'un dîner, Apolline. C'était une mise en scène du pouvoir et du raffinement à la française.
Ce dîner d'État, c'est le premier d'une longue série.
Exactement. Et Kennedy va adorer ce dîner à tel point que quand il
rentre... Il en redemande.
Il en redemande, exactement. Et quand il rentre, il encourage les Américains à faire des dons au château de Versailles. Rien que pour ça, ça a été très efficace. Quant à De Gaulle, lui aussi a été convaincu que ces réceptions étaient donc très utiles pour la diplomatie française. Il en fera beaucoup d'autres pour d'autres chefs d'État par la suite. Ses successeurs aussi. À noter qu'Emmanuel Macron est le président de la Ve République qui a le plus utilisé Versailles pour des réceptions officielles.
Merci Arthur. Arnaud Demanche nous rejoint.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Oh. À 8h30 tout à l'heure dans le face-à-face, je reçois l'ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie, Thierry Breton.
Que la paix soit sur le monde pour les
Et oui, parce que ce matin, c'est la paix, Apolline. Oui, alors j'ai mis cette chanson et aussi... parce qu'elle a été chantée par la maman de Thierry Breton. Non, c'est pas vrai, c'est pas sa mère, enfin, Apolline, c'est sa meuf. Alors, non, mais c'est la paix entre les États-Unis et l'Iran. La guerre s'arrête, a pu, a fini la guerre. Quelle histoire c'était,
oui,
hein,
c'est ce fou,
truc.
Hein.
C'est fini, hein, c'est maintenant. Le détroit, il est ouvert maintenant. Avant, il était fermé. Maintenant, il va rouvrir. Alors, encore avant, il était ouvert, oui. Mais après, il a fermé. C'est les détroits, ça. On connaît les détroits.
Oui. Hein.
C'est ouvert, c'est fermé. C'est comme la poste. Bref, tout le monde se félicite de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Enfin, tout le monde. Non, à mon avis, au Groenland et à Cuba, ils se disent « Merde, il n'y a plus l'Iran pour l'occuper, ça va être pour nous, Trump. » Et c'est un accord, c'est signé électroniquement. Parce que maintenant, on signe les traités de paix comme on signe sa déclaration URSAF. C'est
voilà, clic.
L'historien maison Arthur Chevalier confirmera « C'était pas comme ça en 1918 pour l'armistice. On n'a pas eu. »
Ce 11 novembre, dans un wagon de la forêt de Compiègne, le maréchal Foch et Matthias Erzberger, le représentant du gouvernement allemand, signèrent l'armistice.
Voilà Mathias, la France a signé. Normalement, vous avez reçu un WhatsApp avec un code de confirmation de DocuSign.
Voilà. Arthur vous confirmera que j'imite hyper bien le maréchal Foch.
Ouais,
franchement,
bien fait.
C'est ma meilleure. J'ai bossé Foch, Clémenceau et André Maginot, au cas où.
Ma ligne est indestructible.
Ça, c'était Maginot. Mais c'est
bien sûr, on l'a reconnu tout de suite.
Non, mais
tout
je peux faire reconnu. Des congrès d'historiens avec ça.
Elle est pour Arthur, cette blague.
Ah, non, ouais. elle est toute la chronique est pour lui, vous allez voir.
Il est heureux.
Alors, Israël a déclaré à propos du traité de paix.
Oui.
On n'est pas concerné, on continue. J'ai l'impression que Netanyahou, il est un petit peu accro à la guerre. Alors, pour qu'il arrête, je propose l'hypnose. Comme avec la clope. On le met devant un hypnotiseur qui est là.
Benjamin, écoute ma voix. Concentre-toi sur ma voix et enlève ton pantalon.
Ah non, c'était Gérard Miller. C'est le mauvais qu'on a pris.
C'est pas le bon.
Alors, Arthur Chevalier vous le disait, Emmanuel Macron va accueillir demain Donald Trump à Versailles. Trump qui a fêté son anniversaire avec des combats de MMA et des acrobaties à motocross dans son jardin. Faudra que Macron s'adapte, hein.
Tiens Donald, j'ai un cadeau, bon anniversaire. C'est un t-shirt de Johnny avec un loup qui hurle devant une pleine lune. Oh, j'adore, c'est la classe.
Et puis il va lui offrir des Santiago. Et dans la cour de Versailles, il y aura un barbecue géant. Macron, il aura un tablier, le roi de la saucisse. Et il y aura un concours de Miss T-shirt mouillé. Et un blind test festif et franchouillard avec Philippe Corti. Allez, tout le monde joue. Qui c'est qu'a chanté?
C'est la merguez.
C'est les musclés.
C'est les musclés. Allez, une autre.
Alice, ça glisse.
Francky Vincent.
Mais oui, voilà. Vous auriez pu être invité à l'anniversaire de Donald Trump.
C'est les invités ou pas?
Vous avez le niveau. Allez, rendez-vous avec Thierry Breton à 8h30.
Allez, à tout de suite pour la météo et le journal. Il est 7h28 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Prochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Reprise des traversées de pétroliers dans le détroit d'Ormuz et donc tous les yeux tournés vers la pompe. Les prix vont-ils chuter aussi vite qu'ils ont flambé? Réponse dans un instant. Un ministre ne devrait pas dire ça. Philippe Tabarot, accusé par Éric Ciotti de l'avoir menacé, je cite, de lui envoyer des Géorgiens pour le faire disparaître. Et la folle ambiance à New York, sur Times Square, où supporters français et sénégalais ont fait la fête ensemble avant leur entrée en lice à 21h au Mondial de foot. RMC est sur place.
Le gouvernement met la pression sur les distributeurs de carburant.
Réunion à Bercy, 11h, parce que l'exécutif compte bien voir l'accord Iran-États-Unis et la réouverture du détroit d'Ormuz se concrétiser à la pompe. Sébastien Lecornu répète que les prix doivent descendre aussi rapidement qu'ils sont montés. Victor Jonin, à quoi faut-il s'attendre en faisant le plein ?
Les prix dans les stations-service vont s'ajuster progressivement au fur et à mesure de leur réapprovisionnement. Attention, la situation reste volatile. Tout regain de tension ferait repartir les cours à la hausse. Mais à quelques semaines de l'été et des grands départs, l'économiste Thierry Brault est optimiste.
Si le prix du Brent reste au niveau où il est, aux alentours de $80 par baril, eh bien, on aurait un prix à la pompe qui, dans 15 jours, serait autour de 1,80€. Le litre
de gasoil et d'essence a s'élevé à 1,70€ avant la guerre. Mais pour revenir à cette situation, il faudra être patient, avertit Salomé Ruel, enseignante en logistique, car la production de pétrole au Moyen-Orient a été durablement endommagée.
On a quand même des installations pétrolières qui ont été touchées massivement sur la zone, qui doivent se reconstruire. Et ça peut prendre, selon les différentes installations, des mois, voire des années. Se dire qu'on va voir les prix baisser, oui. Revenir par un coup de baguette magique au prix d'avant-guerre, là, tout de suite, maintenant, non.
La suite dépendra aussi du contenu de l'accord. L'Iran sera-t-il parvenu à instaurer un péage, une mesure qui serait synonyme d'incertitude sur les marchés et donc de cours plus élevés.
Et très épié également, c'est la réaction d'Israël. Son premier ministre a promis hier que son armée restera aussi longtemps que nécessaire à Gaza, en Syrie et au Liban. En France, la colère ne retombe pas après la mort de Liana. Plus d'un millier de personnes ont manifesté hier à Paris devant le ministère de l'Intérieur, mais aussi ailleurs en région devant des tribunaux. Elle revendique toujours une loi intégrale sur les violences sexistes et sexuelles. Le premier ministre a reçu les parlementaires qui portent ce projet. Sébastien Lecornu, qui doit par ailleurs gérer des accusations contre son ministre des Transports. Menace d'agression commanditée qu'aurait susurré Philippe Tabarot à l'oreille d'Éric Ciotti en plein déplacement officiel dimanche sur fond de rivalité locale entre les deux hommes avant les élections sénatoriales. Le maire de Nice dénonce tout ça dans une lettre envoyée à Matignon, Thomas Becker.
Oui, alors qu'Éric Ciotti, maire de Nice, accueille la délégation présidentielle, Philippe Tabarot, ministre LR des Transports, aurait traité l'ancien président des Républicains de nabo. Selon le Canard enchaîné, le ministre se serait ensuite approché d'Éric Ciotti et lui aurait soufflé à l'oreille, je cite, « Je vais te faire disparaître en t'envoyant des Géorgiens ». Cette phrase apparaît dans un signalement adressé au procureur selon les équipes d'Éric Ciotti. Sollicité hier soir, le cabinet du ministre Tabarot n'a pas répondu. Sébastien Lecornu a reçu hier soir un courrier d'Éric Ciotti signalant les faits. Selon les informations d'RMC, le Premier ministre a bien pris connaissance de la lettre et a découvert l'incident supposé hier soir. Pour le moment, aucune décision n'a été prise par le Premier ministre.
Thomas Becker du service politique de RMC. C'est une bascule historique. Pour la première fois à l'échelle mondiale, les réseaux sociaux deviennent la première source d'information passant devant les médias dits traditionnels. On vous détaille cette étude publiée ce matin dans le journal de 8h. Allez, direction les États-Unis.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et plus précisément, Los Angeles. Vous êtes en direct avec nous, Nicolas Pelletier. Vous avez suivi cette nuit l'entrée en lice de l'Iran, forcément très scrutée vu le contexte international. Match nul de partout contre la Nouvelle-Zélande, ça c'est sur le terrain, mais surtout en dehors, ce coup de gueule ce matin du sélectionneur iranien.
Nous sommes l'équipe la plus maltraitée de la Coupe du Monde. Voilà le coup de gueule d'Amir Galenoï, le sélectionneur iranien, il y a quelques minutes devant les médias, juste après son match nul contre la Nouvelle-Zélande. Il fait ici référence à tous les problèmes logistiques et d'organisation de l'équipe depuis son arrivée dans cette Coupe du Monde. Un groupe iranien qui a reçu à la fin du match la visite du président de la FIFA, Gianni Infantino, dans le vestiaire. Vous êtes en train d'écrire l'histoire et le monde entier vous observe, a lâché le puissant patron de la fédération. Les joueurs ont ensuite adressé quelques critiques sur l'organisation de leur préparation devant le président de la FIFA et notamment sur le manque d'équité. Un groupe iranien qui ne traîne pas sur le sol américain. Les joueurs sont actuellement dans le bus direction l'aéroport pour rentrer au Mexique dans les prochaines minutes avant de revenir à Los Angeles dimanche pour y affronter la Belgique. Sur l'enchaînement des déplacements, aucune autre équipe se retrouve dans cette situation.
Nicolas Pelletier en direct de Los Angeles pour RMC, radio officielle du Mondial. Mondial qui vire déjà au fiasco pour la Tunisie après la gifle 5-1 reçue par la Suède. Son sélectionneur Sabri Lamouchi a officiellement été limogé ce matin et remplacé par un ancien de Ligue 1, Hervé Renard. Cette nuit, match nul 1 partout entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay et place désormais à la tant attendue entrée en lice de nos bleus France-Sénégal. Coup d'envoi 21h à suivre évidemment sur RMC. Mais le match, il a déjà commencé dans les rues de New York hier, Valentin Jamin.
Oui, vers 20h, Times Square, cette mythique place entourée d'écrans géants ressemble à une tribune bleue. Des centaines de Français avec maillot, écharpe chante, Eric profite.
C'est magnifique, il y a une ambiance de malade. Hein. On nous entend, on est là, on fait du bruit. C'est important, bien sûr, on se doit d'être là, on est en force. Hein. Ça va être un très beau match. Voilà, je dis pas qu'on va le gagner facilement, mais on va le gagner.
Depuis quelques jours, les maillots bleus affluent en centre-ville. David et son fils Charles sont arrivés hier matin.
Il y a une ambiance de dingue et on est content de vivre ça, quoi.
Contre le Sénégal, on sait que ça va être un super match. On sait qu'ils ont un bon public aussi, mais comme tu peux le voir ici, il y a aussi du niveau.
On doit gagner.
Puis des Sénégalais arrivent à leur tour et Yaya chambre.
On a déjà préparé nos oignons pour manger le coq. C'est vite fait, on va dégager la France. On est venu pour récupérer la coupe et amener au Sénégal.
Les Sénégalais venant de l'étranger n'ont pas eu de visa, mais la diaspora est très grande ici et beaucoup portent fièrement leurs couleurs, comme Aziz et Moussa.
On va taper fort quand même. On est des champions. Préparez les 3-0.
Oui, défaite de la France. On a une équipe qui peut gagner toutes les coupes. Hein.
Ils espèrent donc voir leur équipe battre la France comme en 2002.
Et vous ne manquerez rien, évidemment, sur RMC. 18h, 5h du matin, vous connaissez les horaires sur RMC, c'est 100% Coupe du Monde.
Et puis le quintet, c'est à Nantes aujourd'hui.
Départ 18h40, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 3, Grande Passenne. Son outsider, le numéro 2, Grécian Star, le 3 et le 2.
C'était le journal de Victor Pourchet, il est 7h38 et c'est l'heure. Mais oui, vous voyez tous ces zéros là qui... qui défile. C'est l'heure de jouer et de gagner votre prime de match sur RMC. On a commencé, souvenez-vous, avec une cagnotte de 30 000 euros. Et on rajoute 500 euros à chaque but marqué pendant la Coupe du Monde. Avec les matchs de cette nuit, on est à 53 000 euros. 53 000 euros dans la cagnotte. Retenez bien le montant de cette prime. À tout moment, on peut vous appeler. Et si quand on vous appelle, vous donnez le montant exact de la prime, vous repartez avec 53 000 euros. Pour vous inscrire, vous envoyez tout de suite but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Ça commence ce soir, la Coupe du Monde pour la France à New York.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Bonjour Éric Dimeco, vous êtes notre fil rouge tout au long de la compétition, consultant RMC bien sûr, ancien international, France-Sénégal. Ce soir, 21h, match à suivre en intégralité sur RMC, en direct de New York, où le match a lieu et où vous vous trouvez, Jean-Louis Tour. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Apolline, bonjour Éric, bonjour tout le monde.
Jean-Louis, la voix du foot bien sûr sur RMC, vous commentez le match ce soir. Quelle est l'ambiance déjà à New York? On entendait la Marseillaise qui avait résonné hier soir à Times Square, c'est assez inouï quand même.
Oui, on l'a entendu dans le reportage de Valentin Jamin, il y avait du monde à Times Square côté français, effectivement. On attend 5000 Français pour remplir le stade du MetLife de New Jersey. Alors attention, parce qu'il y aura aussi beaucoup de Sénégalais. Il y a une grosse communauté à New York de Sénégalais. On estime à 10 à 20 000 Sénégalais qui vivent à New York. Donc on peut imaginer qu'il y aura du monde dans le stade, même si aucun Sénégalais n'a été autorisé à se déplacer aux États-Unis. Il y a eu refus de visa, ça fait partie des pays qui sont sur la liste des États-Unis. Donc ambiance qui va être partagée. En tout cas, les supporters français seront là et les joueurs sont impatients de débuter une Coupe du Monde, évidemment.
Il fait très très chaud.
Non, je dirais pas très très chaud. Il fera 25 degrés au moment du coup d'envoi. Il y a un petit peu de vent. Il y en a eu aujourd'hui, il y en aura un petit peu demain aussi, donc ce sera largement supportable.
Largement supportable. Vous restez avec nous, Jean-Louis, Eric. Les Bleus favoris face au Sénégal?
Bonjour à tous. Oui, la France est favorite de la compétition. On dit toujours l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal. On a tous à peu près les mêmes équipes en tête. Sauf que pour ce premier match, on tombe sur un os quand même, parce que champion d'Afrique. Alors il y a débat, mais pour le moment ils ont fait appel, ils sont toujours champions d'Afrique et surtout avec des joueurs qu'on connaît bien, des joueurs qui pour certains ont été formés en France, qui jouent dans des grands clubs, avec le leader Sadio Mané qui a montré justement lors de cette dernière Coupe d'Afrique que il tirait son équipe vers le haut. Donc moi je suis plutôt inquiet parce que c'est jamais évident de rentrer dans une compétition, surtout quand on est favori et qu'on est programmé pour aller au bout. La compétition est longue. Et souvent les premiers matchs sont un peu compliqués, on l'a vu avec l'Espagne hier, il y a d'autres exemples.
Parfois on a un peu du mal, nous, on a un peu du mal à rentrer dedans quoi.
Oui, alors Didier a de bonnes stats sur ce premier match, hein, puisque j'ai vu circuler une stat où il avait perdu qu'une fois, et encore il y a très très longtemps.
C'est une fausse idée.
C'est pas une fausse idée, mais ça génère pas non plus le reste de la compétition. Les Argentins, champions du monde en titre, avaient perdu leur premier match contre l'Arabie Saoudite il y a 4 ans, donc ça va rien.
Quand il dit, Didier Deschamps, qu'il ne voit pas l'équipe de France favorite, mais plutôt l'Espagne, c'est du bluff.
Oui,
c'est quoi, c'est de la superstition?
Non, c'est on file la pression à l'adversaire. Ouais. Mais Didier le sait, il a une génération dorée, notamment en attaque. Tous les autres pays qui nous regardent nous envient parce que on a un banc extraordinaire. C'est de bonne guerre, chaque coach fait ça et se débarrasse de la pression en la mettant sur l'adversaire.
Qu'est-ce que vous pensez de Mbappé? Est-ce que il peut mettre tout le monde d'accord? On a quand même l'impression que en ce moment c'est amour-haine, hein.
Ouais, mais Mbappé, c'est pareil. Il y a toujours débat sur ce garçon. À l'arrivée, il risque d'être encore une fois décisif. En tout cas, il a montré en Coupe du Monde qu'il était là chaque fois. Il a des stats extraordinaires. Il peut battre pratiquement dans cette Coupe du Monde beaucoup de records de buteurs sur une compétition, de buteurs depuis son début d'histoire avec la Coupe du Monde. Buteur, meilleur buteur en finale déjà pour un jeune joueur. Bon, moi je fais confiance à Didier et à cette équipe-là. C'est une machine de guerre quand t'arrives à les compétitions finales. Il y a débat sur le jeu, mais par contre, j'ai vu une stat circuler aussi, je crois que c'était hier dans l'équipe, le pourcentage de matchs gagnés en compétition finale est assez impressionnant pour Didier.
David qui nous appelle au 32-16 depuis le Var. Bonjour David.
Bonjour à tous.
Vous êtes prêts?
Ça va, et vous? Ah bah carrément, tout va bien. Tout va bien, on est super excités pour ce soir, 21h.
Vous serez où ce soir?
Ah bah je serai à Saint-Tropez devant la télé avec mon fils en train de regarder le match évidemment.
Il y a pire.
Ouais, il y a pire.
Il y a pire. On vient. Là, j'ai les pieds dans l'eau, hein, donc ça va. Hein.
Alors votre prono?
2-1 pour la France, évidemment. Avec, je vois bien un but de Mbappé, hein, puisque c'est un compétiteur qui va marquer. Et je vois bien Olise aussi.
Alors, Eric?
Oui. Bon, moi, je suis pas trop fan des pronostics. Je suis pas là pour ça non plus. Et je le disais tout à l'heure, je me méfie de ce premier match et de notre adversaire qui est redoutable. Voilà. Mais allez, une petite victoire, on prend, bien sûr. 1-0, but d'Mbappé, tout le monde le prend.
On prend tout ça, David.
Une belle victoire 1-0.
Oui, et je suis très content de passer avec vous, parce qu'en plus, vous savez, ma femme est marocaine. Donc, vous imaginez la finale Maroc-Sénégal. Donc, il y a un petit peu de piment en plus à la maison.
Mais ce soir, vous avez dit que vous regardiez avec votre fils, vous regardez aussi avec votre femme.
Ah oui, évidemment. De toute façon, oui.
Mais vous avez remarqué quand même, à chaque fois, c'est ça. En fait, mon fils, avec mon chien, avec mon pote. Et madame, alors.
Exactement.
Vous regardez avec qui, vous, Apo?
Et moi, je vais regarder avec mon mari et mes fils. Mais non, il y aura aussi mes filles, d'ailleurs. David, restez avec nous. Une question aussi pour Jean-Louis. Jean-Louis Tour, ce soir, c'est 21h. Il va falloir quand même se préparer aussi pour la suite. Parce qu'il y aura des matchs, au moins le quart de finale, en pleine nuit. Là, pour vous, il est quoi? Il est d'ailleurs 4h du matin.
Il est 1h48.
Ah non, 1h48. 1h48.
On n'est pas couché encore, Jean-Louis.
On n'est pas couché. Voilà,
oui, parce que Jean-Louis, tout à l'heure, a dit demain, il fera bon. En fait, on parle de ce soir, Jean-Louis, nous.
Ah oui, moi j'ai dit demain, pardon. Et c'est encore demain, ouais. Mais c'est vrai. Mais parce que c'est la température chez nous, pas chez vous. Donc forcément, c'est demain. Ah oui.
Évidemment. Jean-Louis, de toute façon, c'est 24-24. Là, en ce moment, c'est 24-24, évidemment, sur RMC. Eric, merci d'être notre fil rouge tout au long de cette Coupe du Monde. Merci à David aussi. David, vous nous rappellerez après le match?
Ah, sans problème, madame de Malherbe. Juste une petite aparté. Mon fils a envie d'être à votre place. Il a envie de faire de la télé. Depuis des années, il a envie d'être présentateur de télé. C'est incroyable. Il fait des études pour ça.
Comment il s'appelle? Voilà.
Naël.
Eh ben, on l'embrasse très fort. On embrasse très fort. Naël. Allez, France-Sénégal, c'est à suivre, bien sûr, sur RMC ce soir, 21h, en direct de New York, en intégralité avec le champion du monde, Emmanuel Le Petit. Avant-match, dès 18h, avec Jérôme Roten, entouré de la légende. Il y aura Jean-Michel Larqué, l'ancien international sénégalais, Souleymane Diawara. Il y aura le débrief aussi dans l'after-foot jusqu'à 2h du matin. C'est ce que je disais, c'est 24-24. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Il est 7h50. Et c'est Cécile Duflo qui vient d'entrer dans ce studio, La Voix de Gauche. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, le G7 se poursuit jusqu'à demain à Évian et vous étiez sur place hier, Cécile. Est-ce que ce sommet sert encore à quelque chose?
C'est une bonne question. Il était assez illégitime, il devient sans doute un peu inutile et c'est aussi à cause d'Emmanuel Macron.
Vous nous le dites dans un instant, La Voix de Gauche sur RMC, il est 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51, dans un instant La Voix de Gauche. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, avec les Anglais de Muse qui sont de retour.
Et l'annonce du jour, c'est celle du retour sur scène en France avant la fin de l'année. 3 dates à Paris, la Défense Arena pour une date unique dans la capitale le 27 novembre. Et puis Montpellier les 3 et 4 décembre prochains à la Sud de France Arena. C'est un retour à l'exception du Hellfest l'an dernier. La dernière tournée de Muse, c'était en 2023 pour leur dernier album. Le prochain sort le 26 juin et déjà depuis quelques semaines, ils révèlent les titres au bout à bout. The Wow Signal sortira le 26 juin, référence à un signal radio inexpliqué capté dans l'espace en 77. Le signal est reçu, ouverture des billetteries à partir de demain pour Muse.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
7h52, nous sommes mardi. Et le mardi, c'est la voix de gauche, Cécile Duflo. Bonjour Cécile. Bonjour, le G7 Pauline. A donc commencé hier dans la ville d'Évian-les-Bains. Vous étiez sur place hier soir avec l'ONG Oxfam que vous dirigez. Pour vous, le G7, il était déjà illégitime, il est désormais inutile.
En fait, le G7, il est né en 1975, en même temps que moi. Et l'idée, c'était de mettre ensemble les puissances. Et puis, petit à petit, il y a eu un certain nombre de sujets qui ont été traités de manière pas forcément inutile, même s'il y a toujours eu de la tension avec la la société civile. Mais le problème de celui-ci, c'est que c'est devenu juste une sorte de show, de mise en scène. Les sujets plus importants ont été mis sous le tapis. Ça coûte très très cher. J'ai une petite pensée pour les habitants d'Évian et de l'entourage qui sont mis sous cloche, qui peuvent plus rien faire. Il y a environ 14 000 forces de l'ordre en tout. On est sur un budget de presque 80 millions d'euros. Et pour pas grand-chose finalement.
Pour pas grand-chose ? Pourquoi ? Alors d'abord, ça a toujours été le cas quand même, j'imagine. C'est le fait d'être dans une sorte de bulle de protection, de sécurité, non ?
Alors c'est pas faux, parce qu'il y a déjà eu un G7, à l'occurrence c'était un G8, à Évian en 2003. C'était Chirac qui était président de la République en France. C'était George Bush qui était le président des États-Unis. Il y avait déjà une guerre, c'était pas l'Iran, c'était l'Irak à l'époque, une guerre tout aussi illégale. Il y avait les mêmes problèmes de sécurité, mais il y avait des sujets à la table des discussions qui étaient des sujets beaucoup plus brûlant. Et puis, les pays du G8, à l'époque, c'était les trois quarts de l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est 40% à peu près. Donc, c'est un sommet sans la Chine, qui est la deuxième puissance économique du monde, sans l'Inde, la cinquième, et avec pourtant théoriquement des sujets économiques. Donc, on voit bien que c'est très, très bancal, cette situation.
Mais ça veut dire quoi ? Ça sert à rien que les dirigeants se parlent ?
Ben, en fait, si, ça sert. Il faut le dire, que ce soit les riches dont on a le sentiment qu'ils décident de l'avenir du monde, c'est problématique, mais qu'il y a plein d'initiatives, au sein des BRICS, les pays du Sud. Il y a l'initiative Bridgerton sur la taxation des superprofits pétroliers. Il y a un certain nombre de pays, justement, qui travaillent ensemble. Et là, le problème, c'est que je crois que Macron, il a surtout voulu la photo. Et la photo avec Trump. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une très petite mobilisation de la société civile par rapport à 2003, parce que tout le monde a bien conscience qu'il ne va pas se passer grand-chose lors de ce G7.
Ça veut dire qu'il y a une forme de responsabilité de la part d'Emmanuel Macron pour vous à avoir rendu encore plus inutile ce G7. Qu'est-ce qu'on peut quand même en espérer ?
Il a accepté les décisions brutales des États-Unis de dire on ne parle pas de climat en 2026. Entre ces pays-là, ça n'a aucun sens. Entre les deux plus grosses canicules de l'histoire de France entre mai et juin, on ne parle pas de genre. On a juste à peine le droit de parler des femmes et des filles. On est en 2027. On ne parle pas non plus de droits humains. Et quand il a dit qu'il ne voulait pas voir le président d'Afrique du Sud, on l'a écarté. Donc, parler des déséquilibres sans la Chine et sans l'Inde, je l'ai dit, ça ne fonctionne pas. Donc, la politique, là, elle est en train de se noyer dans la com. Et on le voit bien parce qu'elle va se terminer à Versailles. À Versailles, dans un feu d'artifice.
Littéralement.
Littéralement, ce sera la fin. Et c'est comme ça que le G7 va de fait s'achever. Et je me demande si ça ne va pas tout court achever le G7.
Merci beaucoup Cécile Duflo. Donc la voix de gauche sur RMC, demain ce sera la voix de droite, Louis Sarkozy. Il est 7h55, on se retrouve dans un instant, le journal de 8h à la une, France-Sénégal ce soir, premier match des Bleus dans la Coupe du Monde. Nous serons en direct de New York où a lieu la rencontre. Après le journal, il y aura l'économie avec vous Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, après l'accord entre l'Iran et les États-Unis, est-ce que les prix du carburant vont baisser ?
Je vous dis tout, combien, quand, où, comment ?
Il a sa boule de cristal, il est venu avec. Allez, la météo, Géraldine nous dira aussi qu'il va faire de plus en plus chaud. Restez bien avec nous, il est 7h56 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.